Chapitre 4 Où je perds ma fortune. Il y a une chose qui me coûte à dire énormément, quoique j'aie spécifié que je ne suis pas poète. Il est des cas où, faute d'un grain de poésie, on pêche contre la plus simple décence. Ce fut, je dois le confesser, ce qui m'arriva. Au moment même où Mademoiselle de Bois-le-Roi me faisait cette confidence si grave, et, je puis ajouter, si touchante dans sa belle simplicité, mon misérable appétit de guidelle, qui chuchotait déjà depuis un quart d'heure, se mit à pérorer au-dedans de moi avec une telle autorité que je n'essayais même pas de lui imposer silence. Nous mangions tous très bien chez mon oncle Le Bihan, qui avait vendu tant de prés et tant de futaies dans l'intérêt de son estomac. Vivait elle-même, le cher petit cœur, faisait ses 5 repas tous les jours, sans peur et sans reproche. Or, il était maintenant quelque chose comme midi, et je n'avais pas mangé depuis la veille avant la grand-messe. Attendez encore un peu pour me condamner. J'ai vu, en France et ailleurs, des cités plus magnifiques que la vieille ville de Laval, ancien fief de Montmorency, mais ils avaient, au signe de la croix, une manière de griller la poitrine de mouton relevée à la sauce poivrade qui mérite une mention historique. Vous savez bien comme les odeurs de cuisine montent 4 à 4 les escaliers d'auberge pour se répandre ensuite le long des corridors. Pendant que Mademoiselle de Bois-le-Roi me parlait, une fumée savoureuse et positivement irrésistible filtra par les fentes de ma porte. Mes narines étonnées s'ouvrirent, et pour un instant, je n'eus plus au monde qu'une ambition, celle de déjeuner. La vocation religieuse d'Hermine me consternait, c'est certain, mais le fumet de la grillade me chatouillait le fin fond de l'âme. Je me représentais avec volupté les délices qu'on devait éprouver à faire glisser le couteau sur le dos de la fourchette, plongée dans cette grillade toute frémissante encore et fleurie de poivre comme la pêche de son duvet. « Est-il possible ? » m'écriai-je pourtant. « Dois-je perdre tout espoir ?» Elle retira sa main et une expression d'inquiétude voila son regard. « Voulez-vous donc me chasser ? » murmura-t-elle. « Je pense que mes yeux avaient parlé trop haut. » Oh, oh, cette grillade! Je la voyais se colorer sur les charbons qui pétillaient sous ses larmes. Qui donc devait la manger? Cela ne m'empêchait pas de l'aimer, au moins, mais de l'aimer sincèrement, cette belle petite sainte qui tenait à l'aise avec Vivette et Catiche dans la vaste hospitalité de mon cœur. Je sentais bien que je lui appartenais tout entier et sans partage. Vous êtes peut-être curieux de savoir si la richesse de Mademoiselle de Bois-le-Roi entrait pour quelque chose dans cet amour, auquel je désespère de donner par la plume l'importance qu'il avait dans ma pensée. Oui et non. Mademoiselle de Bois-le-Roi était ma fortune. Je n'ai pas à nier cette convention que j'avais passée avec moi-même, mais je l'idolâtrais indépendamment de cela. Jamais vous n'avez pu rien voir d'aussi ravissant qu'elle. Elle se serait enfuie, soyez-en certain, si je lui avais dit la moitié de ce qui était en moi, voilée, il est vrai, et apaisée par les tyrannies de la grillade. Ce fut mon salut, et si jamais vous passez à Laval, descendez au signe de la croix, vous goûterez et vous jugerez. Je murmurais en tenant toujours mes yeux fermés et tout honteux de cet aveu que le canon menaçant d'un pistolet n'aurait pu renfoncer dans ma gorge. Je murmurais bien bas. « Mademoiselle Hermine, pensez-vous que je pourrais déjeuner ?» Et j'attendis. Son rire argentin me blessa et m'enchanta. Elle ne riait pas souvent, mais si vous saviez quelle mélodie sa gaieté chantait. « À la bonne heure !» dit-elle du ton d'une personne qui raille sa frayeur passée. « Je permets un bouillon et un œuf frais. »« Voilà d'odieuses choses quand on a rêvé une poivrade !» Elle se leva. « Mon Dieu, que de grâce !» Et comme le trésor de ses blonds cheveux tombait amoureusement sur les chastes contours de ses épaules. J'étais bien jeune, écoutez. Je m'étais solidement battue et j'avais jeûné, sans compter la perte de mon sang. Et peut-être que la potion de monsieur de Raguenel, descendant de Duguesclin par les dames, possédait une vertu apéritive. Ces mots tombèrent malgré moi de ma bouche, et j'ai un pied de rouge en les transcrivant. Ne sentez-vous pas cette poitrine de mouton grillé, mademoiselle de Bois-le-Roi ? Elle se retourna, en conscience. C'était un rayon que son sourire. Enfant qu'elle était, je vis bien qu'elle avait un malin plaisir à trouver plus enfant qu'elle. « Vous êtes donc guérie tout à fait ?» me demanda-t-elle. « Non, répondis-je dans l'invincible élan de ma gourmandise. Mais la grillade me guérira, j'en suis sûr. » Elle sortit. Dès que je fus seule, j'eus honte et j'eus peur. La porte fermée me semblait une menace. Allait-on m'envoyer mon déjeuner par une servante d'auberge ? Avais-je vendu mon bonheur comme Ésaü son droit d'aînesse ? Je me remis sur mon séant pour saisir plus vite le bruit du retour. Je n'entendais rien, sinon la retentissante éloquence de Joson Menou qui racontait dans la cour sous ma fenêtre comme quoi il avait encore essayé deux messieurs prêtres, sans compter l'abbé Reboutou. Le quatrième monsieur prêtre, ayant ouï son cas de conscience, l'avait mis à la porte. Le cinquième l'avait battu. Joson en cherchait un sixième. Enfin, un pas léger, un pas de fée caressa les dalles du corridor. La porte s'ouvrit. Elles entrèrent toutes les deux, la fée et la grillade. Mademoiselle de Bois-le-Roi avait cette bonne figure des mères qui cèdent aux caprices de l'enfant gâté. Elle portait la grillade elle-même, mais par derrière venait la servante avec un plateau. La servante fut aussitôt congédiée. Mademoiselle de Bois-le-Roi me servit. Parlerons-nous de la grillade ? Il y a bien des choses comme cela en notre bas-monde. La première bouchée m'enchanta. Puis je repoussai le plat pour tremper une mouillette dans l'œuf, ouvert par les jolis doigts d'Hermine, et qu'elle me présentait en riant. J'avais trop présumé de moi, j'étais faible et brisée. Quand ma tête retomba sur l'oreiller, Hermine me dit « Gaston, voulez-vous me rendre bien heureuse ? Promettez-moi de vous souvenir de moi comme d'une sœur. » Je promis, mais je mentais. Et d'ailleurs, me crut-elle ? Nous nous aimions déjà, nous nous aimions assez pour n'avoir plus besoin de parler d'amour. Elle voulut savoir la pauvre histoire de ma jeunesse. Je lui dis tout, même Vivette. Ce nom la faisait changer de couleur. Et quand j'en arrivais à prononcer ces mots, elle est mariée, elle eut un grand soupir. Deux larmes brillèrent alors dans ses yeux, et à son tour elle me dit son histoire. Il s'appelait le vicomte Yves de Treverne. Il avait juste mon âge, et il paraît que je lui ressemblais un peu. Hermine et lui s'aimaient depuis l'enfance. Comment ? C'est ici, je crois, qu'il faut employer les mots « frère » et « sœur », car le deuil de mademoiselle de Bois-le-Roi était calme autant que profond. Moi aussi, j'écoutais passionnément pendant qu'elle me faisait le récit de sa vie limpide et triste. Cependant, le nom prononcé de ce pauvre Yves de Treverne, mort si jeune, ne me rendait point jaloux. Le lecteur sait déjà l'accident qui le tua. Ce qu'il ignore, c'est que le méchant drôle connu par nous sous le nom de Saint-Pierre avait des droits éventuels à l'héritage de mademoiselle de Bois-le-Roi, sa cousine. Il l'avait poursuivie en mariage depuis sa petite jeunesse, et l'amour lui était venu en la retrouvant si merveilleusement belle après sa longue absence. Yves n'était donc pas seulement pour lui l'homme qui le frustrait dans son espoir d'être un jour immensément riche, c'était encore un rival d'amour, et un bruit sinistre courait. Saint-Pierre avait promis le sort du jeune monsieur de Treverne à quiconque se mettrait entre lui et mademoiselle de Bois-le-Roi. J'étais accablé de fatigue. Hermine me condamna au sommeil, mais ce fut évidemment à regret. Moi-même, malgré le besoin de repos qui me fermait les yeux, je les rouvris bien des fois pour regarder encore ma chère petite sainte, comme je l'appelais en riant. J'arrivais bien vite à la voir au travers d'un rêve. Je ne savais plus trop si je dormais ou si je veillais. Ainsi, il me semblait qu'elle se penchait sur moi en pleurant. Pourquoi ? Un valet vint, toujours dans mon rêve, et lui dit quelque chose que je n'entendis point, mais où se trouvait le nom de Monsieur Edoux ? Elle lui répondit « Dans une heure ». Puis elle s'éloigna de mon lit et prit place auprès de la table. Je la voyais écrire, et j'étais inquiet de savoir à qui. Bien des fois, elle quitta la table et vint jusqu'à moi. Elle tâtait mon pouls, mais c'était pour toucher ma main. « Encore un quart d'heure, » dit-elle au valet qui revenait. Et quand il parut pour la dernière fois, elle lui dit « Je vous suis ». Alors elle ferma la lettre dans laquelle elle avait glissé quelque chose. Bien sûr que je dormais pourtant, car Vivette était là aussi et me disait « Comme elle est jolie, mais je ne la crains pas ». Et Catiche menaçait d'un doigt espiègle, riant « C'est sa fortune, et vous êtes mariés, vous !» Mais voilà le plus singulier. Tout cela ne m'empêchait point d'entendre dans la cour Joson, mon page, qui chantait à tue-tête la chanson des gars de Locminé, « Qu'ont de la maillette dessous leurs souliers !» Cependant, Mademoiselle de Bois-le-Roi vint à mon lit pour la dernière fois. Elle glissa dans mon sein la lettre qu'elle venait d'écrire. Ce mouvement souleva ma chemise et découvrit le médaillon où Vivette avait mis la bague tressée avec ses cheveux et la corde du pauvre Monsieur Le Gall. Je crus qu'Hermine allait me la voler, tant son geste fut expressif. Mais elle la remit en place et se pencha sur moi. J'eus un baiser sur le front, rapide et furtif comme un souffle, et je ne vis plus rien. Joson disait dans la cour à Monsieur de Pélédoux « Si je le connais, cet oiseau-là, oh, mais dame, oui, il est de chez nous, un vilain singe, grippe-soleil, comme on l'appelle, et neveu du monsieur recteur de ma paroisse. Ne faut point jamais prendre une laide bête de même pour remplacer un brave homme comme monsieur Lécaire, que vous avez fait la fin de lui par maladresse avec votre espingot. Et si vous l'emmenez malgré moi, mettez le bout de votre tuette sur son estomac, c'est le conseil que je vous donne. » La prochaine fois que vous serez pour la décharger à Lazare. » Il y eut des roues qui sonnèrent en roulant sur le pavé de la cour, et mon sommeil devint lourd comme plomb. Je n'eus plus de rêve. Il faisait nuit noire quand je m'éveillais en toussant. Joson fumait sa pipe auprès de moi. Comme mon premier regard faisait le tour de la chambre, Joson m'adressa un signe d'amitié et prit ainsi la parole. « Par alors !» Pour être une mignonne demoiselle, faut pas mentir, ça y est, tout en tout, et qu'elle m'a dit de vous dire, disant de sa part, « Bonsoir, à revoir, portez-vous bien, et le paradis à la fin de vos jours. »« De qui parles-tu » m'écriai-je en sautant hors de mon lit. Joson me saisit à bras le corps. « Je parle d'elle donc, » répondit-il, « et que ne faut plus y penser brin ni miette. » Le gros a gagné Grippe-Soleil à son service. Il vous fait bien ses civilités, du ton qu'on envoie à quelqu'un à tous les diables. Et j'ai trouvé enfin monsieur prêtre qui est un bon, celui-là. Il m'a dit de n'avoir point de crainte, moyennant que je partagerai avec lui mon péché, qui est un peu de la corde à monsieur Le Gall le pendu. »